Nous sommes dans l'étude du livre du prophète Ésaïe. Nous avons entamé la semaine dernière le chapitre 10. Et nous vous invitons à vous joindre à nous. Nous allons lire à partir du verset 5. Juste un petit retour en arrière. Ésaïe est un des grands prophètes de l'Ancien Testament, qui a servi sur plusieurs rois qui se sont succédés. Il a été un prophète pour Juda. Je vous rappelle qu'après la mort de Salomon, le royaume de Salomon a été divisé par la rébellion en deux parties. Le royaume du nord, appelé aussi Israël, avec comme capitale Samarie, les principales tribus étant Éphraïm ou Manassé et d'autres, et le royaume du sud avec capitale Jérusalem, qu'on appelait aussi le royaume de Juda. Et c'est là que essentiellement les prophéties d'Ésaïe s'adressent au royaume de Juda, du sud. Les prophéties qui sont annoncées se sont réalisées. C'est une des grandes caractéristiques de la parole de Dieu, c'est qu'il dit des choses qui se passent vraiment, alors que les autres religions n'ont pas cette caractéristique d'avoir des prophéties qui se sont vraiment accomplies à la lettre. C'est une des signatures de Dieu pour vous faire savoir que sa parole est la vérité. Il dit, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent annoncer et ça se passe? On sait que chaque année, il y a des horoscopes, il y a des prévisions dans les magazines. On dit qu'il va y avoir un chef d'État ou deux qui vont mourir, qu'il va y avoir des difficultés économiques, qu'il va y avoir des tempêtes, de la chaleur, du froid. Et merveilleusement, ça se réalise. Non, les prophéties dont on parle dans la Bible sont autrement précises et autrement surprenantes dans leur réalisation à la lettre. Certaines se sont déjà réalisées dans le passé, on va en voir quelques-unes. Elles ont souvent plusieurs distances. Il y a une distance immédiate, la prophétie peut se réaliser dans le temps de vie du prophète. Quelquefois c'est pour un délai plus long, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années. D'autres fois, ces prophéties ne se sont pas encore réalisées, elles se réaliseront dans les temps de la fin. Et donc, en étudiant tout ça, on peut avoir une bonne intelligence, pas parfaite bien entendu, mais de mettre les choses en place et de savoir où on en est dans le calendrier de l'histoire selon Dieu. Et donc, on a depuis quelques semaines commencé à entamer l'étude de ce très beau texte, 66 chapitres, créé après... On a expliqué que ce n'était pas l'Esprit Saint qui avait inspiré ces divisions, mais c'est un parallèle du nombre de livres dans la Bible, qui comporte 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament, et ces 39 premiers livres, c'est ce qu'on appelle des fois le premier Ésaïe, et la suite, c'est le deuxième Ésaïe, alors qu'on sait qu'il n'y a qu'un seul Ésaïe. Ça, c'est les théologiens libéraux du 19e siècle qui ont essayé de dire, pour écarter la réalisation des prophéties en disant, en fait, ces choses, elles ont été écrites après coup. Et c'est un témoignage, en fait, de la précision de ces prophéties, c'est que certains disent qu'il n'est pas possible qu'elles aient été écrites avant les événements. Elles ont dû être écrites après. Et c'est vrai qu'on peut prophétiser beaucoup plus facilement après les faits. Mais ce n'est pas le cas de ces prophéties que nous trouvons dans la Bible. Le début du livre d'Ésaïe, nous avons vu des prophéties sur ce qui allait se passer en Israël, qu'il y avait une humiliation que Dieu allait faire venir sur son peuple qui s'était rebellé contre lui. Mais quand il y a la condamnation avec Dieu, il y a toujours l'espoir. Et dans le dernier chapitre, le chapitre 9, si on a vu des jugements qui sont proférés par le prophète, S'il a des enfants qui portent des noms qui vont déclarer le futur, il y en a un qui s'appelle Maher Shalal Ashbaz, qui veut dire « vite au pillage, en hâte au butin », ça préfigure ce que les Assyriens qui vont envahir et assiéger et conquérir et envoyer en exil Israël, le royaume du Nord, ça prédisait donc ce qu'ils allaient dire. Et puis il y avait quand même un autre fils qui s'appelait Shear Yashub, et lui ça veut dire « un reste va être conservé ». Il allait rester un reste de gens fidèles. Et ça, c'est l'espoir. Et puis, il y a un autre fils dont il est question, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et lui, il préfigure notre Emmanuel à tous, Jésus-Christ, le Messie, qui est annoncé par l'évangéliste Matthieu en faisant référence exactement à ces chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans la fin du chapitre 9, Ésaïe a continué à affirmer qu'il allait avoir un jugement pour discipliner le peuple d'Israël, donc essentiellement le royaume du Nord, pour plusieurs raisons. D'abord leur orgueil. Et l'orgueil, on va le voir tout au long de l'étude d'Ésaïe, c'est une chose que Dieu n'aime pas. Parce que c'est à lui que revient toute la gloire. Paul disait dans 1 Corinthiens 4, « Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu ?» Et quand on y pense bien, des choses pour lesquelles on a tendance à se rengorger, à se dire « Après tout, je ne suis pas si mauvais que ça, j'ai ces qualités. » Ces qualités, c'est Dieu qui nous les a données. On n'a absolument pas le droit de s'en vanter et de dire « Moi, je suis le plus fort parce que je suis le plus fort » et vous la fermez. Non. Si on a quelque force qu'elle soit, on est en droit, on est en devoir d'en donner la gloire à Dieu et de l'en remercier et de mettre à bien ses qualités, ses talents qu'il a pu nous donner pour sa gloire à lui, pas pour la nôtre. Et ça, c'est subtil. C'est subtil. J'ai pas le sentiment d'être une personne orgueilleuse, et peut-être que vous en jugez autrement, mais il y a un proverbe qui m'est revenu à l'esprit vendredi soir, après la réunion de l'Assemblée Générale. Proverbe 16-18, qui dit que l'orgueil précède le désastre. Et un esprit arrogant précède la chute. Proverbe 16-18. Il se trouve que jeudi soir, je suis redescendu. Avec Tonio, on a déposé quelques documents pour repartir aller chercher un sandwich en ville. Et juste à ce moment-là, le camion de poubelle était passé. Vous savez, ces gens bruyants qui bloquent le trafic, qui crient au milieu de la nuit, au petit matin, qui jettent les chariots, les bacs à poubelle, sur roulette ou pas roulette. Et juste alors que je fermais la porte, il y en avait un qui avait laissé la poubelle du voisin juste sur le coin là où ce matin il y avait un scooter. Bref, j'essaye de dégager ce chariot. Et c'est souvent les poubelles sont en mauvais état. On ne pense pas acheter une belle poubelle parce qu'on sait comment elles sont traitées. Donc le fond de la poubelle n'est pas attaché à la poubelle, juste par un côté. Et au lieu de faire l'effort de tirer la poubelle, de la tourner pour la tirer, ce qui est toujours à faire, c'est une recommandation, j'ai poussé la poubelle et le fond s'est pris à côté sur le sol. Vous savez, il y a devant l'entrée à côté, il y a un sol très inégal. Ça s'est accroché au fond du chariot. Et avant que j'ai le temps de réaliser, je suis tombé la tête la première dans la poubelle, par terre. J'ai encore des cicatrices sur les mains et sur le front pour en témoigner. Et je dois dire que j'ai été sonné. J'ai pris un bon coup sur la tête. Et j'ai eu l'impression en tombant que je me recroquevillais sur moi, mon système végétatif, neuro-végétatif, je ne connais pas les termes, mais se replier quoi, pour essayer de préserver mon cerveau. Et j'étais presque évanoui. Et je me suis relevé et ce verset m'est revenu à l'esprit. Un esprit arrogant précède la chute. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu veux me montrer quelque chose ? Et en fait, ça m'a conduit à réaliser que peut-être il y a des aspects de ma vie où je montre de l'arrogance. Ou peut-être je suis impatient avec les gens. Une forme d'orgueil ou d'arrogance, ce n'est pas nécessairement de dire « je suis le plus fort », mais c'est d'être très préoccupé de soi-même. Parce qu'on va le voir, l'arrogance, elle commence dans le cœur, elle commence dans l'esprit, dans nos pensées. Des fois, je dis « je ne comprends pas que les gens ne soient pas aussi engagés que moi, aussi travailleurs, aussi fidèles, comment ça se fait ?» Et le Seigneur m'a dit « oui, ça c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. » Même ta capacité peut-être à travailler dur, c'est moi qui te l'ai donné. C'est pas toi. Donc, la chute a suivi. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit que le Seigneur peut nous humilier. Tonio était à côté de moi, c'est dommage, il aurait pu, s'il avait eu le réflexe de prendre une photo du pasteur tombé dans la poubelle, tombé bas dans la poubelle. Et peut-être je pourrais mettre ça dans mon bureau pour me rappeler chaque fois que j'ai tendance à dire qu'en fait je fais des choses qui sont pas si mal. Non, c'est les choses qui sont pas si mal, c'est le Seigneur qui les fait. Je veux bien, et il me laisse revendiquer toutes les autres. Et Dieu sait s'il y en a des péchés, des fautes, des façons méchantes de traiter les gens, des façons égoïstes de me comporter. Alors, attention à la chute. Et je remercie le Seigneur que je ne me suis pas fait plus mal. J'aurais pu casser mes lunettes, j'aurais pu crever les yeux. C'était un avertissement, je crois. On va lire à partir du verset 5, après cette longue introduction. Mais je crois que le Seigneur voulait que je partage ça avec vous. J'ai résisté, mais... Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. La massue dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je le lâche contre une nation impie, je le dirige contre le peuple qui m'irrite, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin. On retrouve les mots qui composaient le nom de Maher Shalalash Baz, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas ainsi que son cœur le prend. Car c'est la destruction qui est dans son cœur, le carnage des nations innombrables. Car il dit, « Mes princes ne sont pas-ils autant que de mes rois, de rois ? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish ? Ou encore de Hamas comme d'Arpad, ou encore de Samarie comme de Damas, de même que ma main a su trouver les royaumes des faux dieux, dont les statues dépassaient celles de Jérusalem et de Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses faux dieux, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images ? Mais alors, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux. » Là, on entame la deuxième partie. Mais Dieu nous avait indiqué qu'il devait juger le peuple d'Israël, c'est là que j'en étais, à cause de son orgueil. Deuxièmement, à cause de ses mauvais chefs, de ses mauvais responsables. Troisièmement, à cause de la méchanceté des gens. Et puis aussi par leur appât du gain, leur matérialisme. Et à chaque fois, on avait vu, il terminait par « malgré tout cela, sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue en jugement contre le peuple d'Israël. » Et donc, il va utiliser l'Assyrie, le royaume assyrien. On a vu qu'en fait, il y avait le royaume du sud, Juda, le royaume du nord, Israël, qui s'était allié au royaume de Syrie pour contrer une menace de l'empire assyrien. Et le roi Ahaz, de Juda, avait lui voulu faire alliance avec l'Assyrie, avec l'empire assyrien, pour se défendre des visées du nord, du royaume du nord, Israël, et du royaume de Syrie. Mais Dieu va utiliser cet empire assyrien pour accomplir son jugement. Il dit qu'il est le bâton de la colère, la massue dans sa main. Ça nous rappelle ça, le psaume 23, où David parlait du bâton et de la houlette de Dieu. C'était des baguettes, des bâtons utilisés pour mener le troupeau. La houlette, c'était le bâton avec lequel il pouvait frapper le flanc des animaux. Le bâton, ici c'est la massue, c'était en fait un bâton qui avait une boucle à la fin qui permettait d'attraper la patte de l'animal et de le retirer en arrière lorsqu'il commençait à s'égarer. Mais Dieu nous apprend ici, et c'est un des chapitres, comprenez bien, c'est un des chapitres clés pour voir comment Dieu agit dans l'histoire. Certains pensent que Dieu n'est pas là, qu'il n'est pas, que l'histoire, il a peut-être commencé, mais Dieu agit dans l'histoire. Et on y reviendra à la fin, il y a cette question entre la souveraineté de Dieu, Dieu est le patron, c'est lui qui dirige, il fait ce qu'il veut, et puis la responsabilité des hommes. Et là, l'exemple de la Syrie est un exemple très intéressant, parce qu'on voit qu'il va utiliser la Syrie pour accomplir ses desseins, pour juger son peuple rebelle, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas tenir compte de la responsabilité morale de la Syrie. On va voir qu'il va aussi juger la Syrie. Et ça répond aussi aux questions, ça apporte des éléments de réponse aux questions que l'on se pose lorsqu'on se dit « Pourquoi est-ce que des gens me font du mal et Dieu n'intervient pas contre eux ?» C'est une question très légitime de se demander pourquoi ce patron qui est anti-chrétien, c'est lui qui a le pouvoir, c'est moi qui suis brimé. Dieu est toujours sur le trône. Dieu est toujours souverain. Et souvent aussi on se dit, ces gens-là prospèrent. Pourquoi est-ce que le méchant prospère? Pourquoi est-ce que moi qui ai donné mon cœur à Jésus, j'ai du mal à trouver du travail, j'ai du mal à faire face à mes factures, alors que je connais des gens qui vivent dans le péché, qui n'ont aucune honte et qui, eux, roulent sur l'or. On a l'impression des fois que ça serait plus facile de rejeter Dieu et d'être traité comme il semble traiter ces personnes. Mais ça, c'est encore une vision à courte vue, c'est une à courte échéance. C'est ne pas saisir des choses essentielles que Dieu est souverain, il a toute puissance pour accomplir sa volonté, avec nous, sans nous, ou malgré nous, ou contre nous, jusqu'à ce que nous revenions à lui. Et il a toute puissance pour agir. Et il a de bons plans. Et il nous tient responsables de nos choix. C'est une question philosophique très, très profonde. Je parlais il n'y a pas très longtemps, hier matin, avec le grand-père d'Anne, et il me disait, j'ai deux mots à dire à Dieu. On lui dit, attention à ce que vous dites. Il dit, parce que je ne peux pas comprendre que Dieu ait permis tout ce mal, s'il sait tout, s'il est en dehors du temps, il savait que ça allait mal se passer et qu'il fallait envoyer son fils, pourquoi il n'a pas fait autrement? Et là, on peut lui répondre, on ne sait pas tout, mais on sait que Dieu est juste, que ses jugements sont selon la justice parfaite. Dieu est juste et Dieu est bon, Dieu est puissant, et c'est lui qui va avoir le dernier mot. C'est pas vous qui allez le mettre mal à l'aise. Oh, c'est vrai, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Non, c'est lui qui va vous dire, qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu savais de moi? Qu'est-ce que tu as fait avec la création qui montre que j'existe, avec la conscience morale dans nos cœurs qui montre qu'il existe, Parce que s'il n'y avait pas la conscience morale, s'il n'y avait pas un sens du bien et du mal, alors pourquoi essayer de faire le bien, pourquoi essayer de faire le mal? Nous avons tous, toutes les cultures dans le monde, ont le sentiment qu'il y a des choses à faire et des choses qui sont mal. Et si nous sommes le fruit du hasard cosmique, ce serait bien étrange que les étincelles aient donné un sens bon ou mal à des actes. Cette conscience morale qui est en tout homme, comme dit Paul dans Romains, la création et notre conscience morale sont des preuves éclatantes que Dieu existe. Et nous sommes sans excuse si nous le rejetons. Cette Assyrie, ce royaume d'Assyrie, empire, c'est l'empire le plus puissant à l'époque, c'est l'instrument de la fureur de Dieu. Il le lâche contre une nation impie. Une nation impie, c'est une nation qui... Le terme impie est un peu vieilli. L'impiété, c'est ne pas chercher à plaire à Dieu. C'est ne pas se soucier de Dieu. Et lorsqu'on voit que Dieu peut s'en prendre à une nation impie, on se dit que peut-être Dieu va s'en prendre à notre pays. Peut-être qu'il s'en prend déjà, on voit les blocages, on voit les problèmes. Il s'en prend aux nations qui le rejettent. Il n'y a qu'une nation qui l'a rejeté officiellement, c'était l'Albanie. C'était le seul État athée du monde qui avait pris cette position officielle dans sa constitution. La France parle des droits de l'homme, mais nous savons que la France a refusé de faire référence à l'héritage chrétien dans la Constitution européenne. La France est mal barrée, pour parler vulgairement. Et si Dieu ne nous utilise pas, ou si nous ne sommes pas disponibles pour annoncer la bonne nouvelle à nos concitoyens, je crois que la France et bien d'autres pays, on n'est pas isolés malheureusement, dans cette impiété, vont avoir à souffrir de ce rejet, de cette moquerie de Dieu officiel. Il peut utiliser la Syrie dans notre cas. Peut-être qu'il va utiliser l'islam dans notre pays. Je vous laisse réfléchir sur les persécutions à venir. On va avoir une occasion à la rentrée, au mois d'octobre, portes ouvertes, après être venu au mois de septembre, reviendra pour faire auprès de la pastorale une formation sur comment être prêt à la persécution. C'est 5 sessions d'une heure et demie sur le samedi dimanche. C'est un sujet sérieux. Dieu est peut-être en train de préparer un jugement contre ce pays, et il peut utiliser qui il veut. Ça ne veut pas dire pour autant, et on le voit, je le dirige contre le peuple qui m'irrite, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue dans le rue, mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas ainsi que son cœur le prend. Il parle de la Syrie. La Syrie pense qu'en fait ils sont forts, et ce qui est dans leur cœur, c'est la destruction, le carnage de nations innombrables. Il est plein d'orgueil. Il dit « Mes princes sont aussi forts que les rois des autres pays. Ceux qui sont simplement des princes chez moi, ils valent les rois de cette nation. » Il rappelle des endroits où la Syrie a vaincu facilement. Calno, Carchemish, Arpad, la bataille de Carchemish est une des grandes batailles de l'histoire. Hamat, Arpad, la Samarie, Damas. Samarie, c'est le royaume du Nord. Damas, c'est le royaume de Syrie. Et ils avaient pu voir, ma main a su trouver les royaumes des faux dieux. Ces pays avaient des idoles. Nous savons même que le royaume du Nord avait établi à Dan, on peut encore visiter l'emplacement, il y a une représentation de l'autel d'airain sur lequel ils sacrifiaient aux veaux d'or. Et ça, c'était des idoles. Nous savons que les idoles, en fait, c'est des puissances démoniaques qui peuvent être invoquées sur des représentations, des images, des statues. Et cet empereur assyrien, ce pays, se disait « on est plus fort que toutes ces petites idoles ». Et il mettait dans le même sac Jérusalem, c'est-à-dire le royaume de Juda, le royaume du vrai Dieu. Et là, il se mettait le doigt dans l'œil, en mettant le doigt dans l'œil de Dieu. Il est dit que le Seigneur aime son peuple comme la prunelle de ses yeux. Si on vous met le doigt dans l'œil, ça fait très mal, et on réagit en général. Mais c'est eux qui se trompent en pensant que le royaume du sud, son Dieu, c'est une autre de ces petites idoles qu'ils peuvent venir bafouer, qu'ils peuvent venir détruire, qu'ils peuvent envahir le pays. Verset 12. « Mais alors, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux, pour l'arrogance de ses regards hautains. » Encore une fois, l'orgueil, c'est quelque chose qui irrite Dieu. Jacques disait « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Pierre le répétait, et c'était un proverbe aussi de l'Ancien Testament. C'est une constante. Lorsque vous essayez de vous élever, Dieu vous rabaisse. C'est comme un principe de vase communicant. Dès qu'il y a la moindre étincelle d'orgueil, Dieu va la réprimer, quitte à vous faire tomber dans une poubelle. Et pire. Et donc, ce cœur orgueilleux, l'arrogance des regards. Vous avez vu déjà des gens avec un regard hautain? On dit en anglais, ils ne vous donnent pas l'heure du jour. Vous êtes là, mais c'est comme si vous êtes transparent. Ou alors, qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous êtes trompé de bureau, imbécile. Pas, moi, je ne m'occupe pas de ça. L'arrogance des regards hautains. Pourquoi? Parce que la Syrie et les hommes orgueilleux pensent « c'est par la force de ma main que j'ai agi ». C'est par ma sagesse que je suis intelligent. Waouh ! J'ai fait le test sur Facebook, j'ai un quotient intellectuel de 160. Waouh ! Il y en a qui le font pour plaisanter, mais il y en a qui le font sérieusement. C'est un cadeau de Dieu. J'ai bousculé les frontières des peuples, je les ai dépouillés de leurs trésors. Comme un puissant, j'ai fait descendre ceux qui régnaient, ceux qui siégeaient. Et il dit, ma main a su trouver comme au nid, dans un nid, la richesse des peuples, et qu'on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé, j'aime bien le mot français, un pépiment. Bip, 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 bip. Personne n'a, nobody piped a word. Oh, piped a word? Pip, pip, hein. Et c'est, voilà, le mot pépiment que vous connaissez, c'est pas du piment. C'est un petit oiseau qui fait du bruit. Pip, 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 pip. Et là, il compare les gens à des oiseaux. Il a pu venir chercher les œufs, les voler, sans se faire attaquer par les oiseaux, sans qu'un seul des oiseaux ne bronche, on dirait. Et là, il continue au verset 15 en expliquant ils n'ont pas compris que c'est moi qui fais le travail, que eux, ce sont un instrument. C'est un peu comme si les pinceaux de Jenny venaient sur l'estrade et disaient « c'est nous qui avons fait les beaux tableaux qu'on a exposés ». On dirait « elle vous a utilisé », mais c'est elle qui a dessiné, qui a peint. Quand vous faites du bricolage, c'est vous qui faites le bricolage. C'est pas votre perceuse, c'est pas votre ponceuse, même si elles peuvent vous aider. Entre vos mains, ce sont des instruments. Mais imaginez que la ponceuse dise à Paul, tu as vu comment j'ai fait ce beau mur? Paul dira, je la rejette. Et là, il explique, est-ce que la hache, est-ce qu'elle se glorifie aux dépens de celui qui s'en sert? Ce serait ridicule. Ou est-ce que la scie est arrogante envers celui qui la manie? Comme si c'était le bâton qui faisait mouvoir celui qui le lève. C'est une belle image, ça aussi. Est-ce que c'est le bâton qui, en fait, si quelqu'un, un visiteur extraterrestre venait et filmait sur sa vidéo galactique plus moderne, comme point, etc., filmait un homme en train de frapper, il pourrait dire qu'en fait, c'est le marteau qui est là et c'est l'homme qui suit le marteau, si on se fixe sur le marteau. Et c'est ce que dit le prophète Ésaïe, est-ce que c'est le bâton qui fait mouvoir celui qui le lève? Comme si la massue soulevait celui qui n'est pas du bois, si c'est la massue qui faisait bouger la personne. C'est ridicule, ils n'ont rien compris. Et verset 16, c'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, enverra le dépérissement parmi ces hommes corpulents. À l'époque, c'était bien d'être gras, il n'y avait pas d'anorexie prônée par les vedettes d'Hollywood. Quelqu'un qui était riche était quelqu'un de gras, parce qu'il fallait avoir de l'argent pour s'offrir des mets qui faisait grossir. Parmi ses nobles, il allumera un embrasement tel l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein, verset 17, une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui exterminera totalement la gloire de sa forêt et de son verger. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt feront un compte qu'un enfant pourrait inscrire. Autrement dit, il compare les ressources, les hommes d'Israël à une forêt et il dit qu'en fait, quand il aura utilisé la scierie, la hache de la scierie, tous les arbres seront tombés. Il n'en restera que quelques-uns, si peu que même un enfant qui compte jusqu'à 10 pourra les compter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un terrain qui a été défriché. Dans la région de Seattle, il y a beaucoup de forêts dans le Northwest. Et je me souviens, il y avait un endroit où j'aimais bien aller, une forêt où j'allais bien aimer me promener ou courir. Et un beau jour, ils sont venus, ils ont complètement coupé les arbres. Il n'y avait plus que des souches qui restaient, stumps. Et c'est triste. Il n'y a plus rien. La forêt, les animaux qui étaient là, l'ombre qui était là, la fraîcheur, tout ça s'est dévasté. Dieu promet par Ésaïe qu'il va faire de même avec le royaume du Nord, qu'il va utiliser la Syrie, et c'est ce qui s'est réalisé à la lettre. La Syrie a emmené en exil le royaume du Nord. Il n'est plus resté que quelques souches, quelques troncs d'arbres dans ce beau pays qui est aujourd'hui la Galilée, etc. Mais toujours ce désir et cet amour de Dieu pour son peuple. Mais le reste des arbres, il arrivera en ce jour que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement en reviendra. L'extermination est décidée, elle fera déborder la justice. Car cette extermination qui est décidée, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplit déjà dans tout le pays. Le jugement vient, mais Dieu laisse un reste. Et notamment, ce jugement sur Israël, c'est un exemple, c'est un avertissement pour le royaume du Sud, pour le royaume de Juda. Dieu, des fois, nous donne des exemples de personnes qui tombent dans le péché, de personnes qui... Et on peut voir les conséquences de leur désobéissance. Ces exemples, c'est pour moi, c'est pour nous, de voir que certaines actions ont des conséquences. Et que si je ne me repens pas de certains péchés, ces péchés vont récolter la corruption. Galates 6, 9. Vous semez soit pour la chair, soit pour l'esprit. Si vous semez pour la chair, vous récolterez la corruption, de mauvaises choses, le mal, tout sera pourri, tout se désagrégera entre vos mains. Et au contraire, si vous semez pour l'esprit, vous récolterez le fruit de l'esprit et la vie éternelle. Le choix nous appartient, mais Dieu fait tout pour nous faire choisir. Il ne force pas notre choix. J'en parlais hier aussi avec cette personne qui ne comprenait pas que Dieu puisse nous laisser la liberté de choix. Dieu nous laisse la liberté de choix parce qu'il veut un amour véritable. S'il n'y a plus de choix, il n'y a pas d'amour véritable. Élie n'a pas mis un pistolet derrière le dos de Sébastien pour qu'il lui dise « Chérie, je t'aime ». Elle aurait pu y arriver comme ça, mais elle n'aurait pas été très convaincue dans son esprit que l'amour de Sébastien était bien profond, bien véritable. Ça leur apprendra à s'asseoir au premier rang, les pauvres. Désolé. Moi qui veux que les gens s'assoient au premier rang, quand ils viennent là, je les prends comme exemple, pardon. Verset 24. « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. N'aie pas peur du jugement. Le jugement arrive, ça va faire du mal. Il te frappe du bâton, il lève sur toi sa massue, comme faisaient les Égyptiens, mais encore un peu de temps, et ma fureur cessera, et ma colère sera sa ruine. Dieu va se retourner contre l'instrument qu'il a utilisé pour juger son peuple. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme à la défaite de Madian au rocher d'Horeb. On a parlé du livre des juges et la victoire de Gédéon sur les Madianites, où en fait Dieu s'est assuré que c'est lui qui allait recevoir toute la gloire en divisant l'armée initiale de Gédéon de 32 000 hommes. Il a descendu en nombre par deux tests, ceux qui avaient peur et ceux qui buvaient d'une façon imprudente, sans regarder les ennemis autour. Il a fait descendre de 32 000 à 300 personnes. Le ratio, c'était 1 contre 450, mais il leur a donné une victoire éclatante. Et la seule victoire, Dieu a pu en retirer la gloire. Son bâton est sur la mer, il l'élève comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse fera éclater le joug. C'est intéressant, il y en a d'autres traductions qui font appel à un texte qu'on appelle le texte reçu. Et là, la graisse, c'est aussi le mot pour onction. Et pour dans ce passage, je peux faire référence au Messie qui va être celui qui fera éclater le joug. Je préfère ça à la graisse qui fait éclater le joug. J'ai pas vu de la graisse, à moins qu'elle soit sous pression et dans un pistolet, faire éclater une pièce de métal. Mais ça, c'est des petits détails de traduction. Et ensuite, il dit qu'il arrive à Ayat, il traverse Migron, il laisse ses bagages à Mikmas, il part de la Syrie. Il passe le défilé, notre cantonnement est à Geba, Rama tremble, Gibéa de Saül prend la fuite, éclate en sanglots, fils de Galim, fais attention, Laïs, anathème sur toi, Anatote, Madmena se disperse, les habitants de Gébim cherchent un refuge, aujourd'hui même une Altanob, et il a menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Dieu, par Ésaïe montre que l'Assyrie va venir très proche de Jérusalem. Non seulement ils vont prendre le royaume du Nord, l'envoyer en exil, mais ils vont être une menace sérieuse pour le royaume du Sud, pour le royaume de Juda, d'où allait naître le Messie. duquel allait naître le Messie. Et tous ces, si vous regardez sur une carte, on n'a pas la position exacte de tous ces emplacements, mais la plupart, on voit que c'est une progression. Et Dieu, des fois, veut nous mettre en garde. Il dit attention à ce qui s'est passé là, attention à ce qui s'est passé là. Dans telle église, il s'est passé là. Est-ce que vous avez mis les choses en ordre? Est-ce que là aussi, vous pourriez avoir les mêmes problèmes? Il se rapproche jusqu'à Nob, et puis à la colline de la fille de Sion, la colline de Jérusalem elle-même. Mais voici le Seigneur, l'Éternel des armées, qui brise les rameaux avec violence. Les plus hauts de stature sont coupés, les plus élevés sont jetés bas. Il abat par le fer les taillis de la forêt et le Liban tombe sous le puissant. Ça, en fait, c'est une prophétie de ce qui s'est passé. Si vous regardez, si on va un peu plus loin dans Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 37, qui nous parle du roi d'Assyrie, le roi Sennachérib, chapitre 36. La 14e année du roi Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et c'est les villes dont on a entendu parler. Et ils arrivent à Jérusalem qu'ils menacent. Mais parce que le roi Ézéchias avait conduit un réveil, un retournement, on verra qu'il n'était pas parfait en parlant de lui. Mais Dieu a donné la victoire, ou plutôt il a donné la défaite aux Assyriens. Il y a cette chose incroyable, il y a eu 185 000 personnes des Assyriens qui se sont fait frapper par l'ange de l'Éternel. Chapitre 37, verset 36 ou 35, « Je protégerai cette ville pour la sauver. À cause de moi, à cause de David, mon serviteur, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'était tous des cadavres. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, partit et s'en alla et retourna pour résider à Ninive. Et là, il va être frappé par l'épée et c'est son fils qui va régner à sa place. Le royaume, l'empire d'Assyrie, va être aussi remplacé par l'empire de Babylone. On en reparlera. Et Babylone va être le royaume, le grand royaume du moment, qui va, conquérir Jérusalem et emmener le peuple de Juda en exil à Babylone. Et donc, on voit que Dieu est souverain, que Dieu utilise des instruments. Et ça pose la question, on a des fois du mal à dire, si Dieu est souverain, si c'est lui qui dirige tout, pourquoi évangéliser? Pourquoi s'en prendre aux hommes et les tenir responsables de ce qu'ils font? Si Dieu sait tout à l'avance, est-ce que ça veut dire que j'ai pas le choix? Et des théologiens bien plus profonds que moi ou d'autres, ou même de, se sont cassés la tête dessus. Et des théologiens plus grands encore ont dit, si on veut chercher à tout comprendre, on met Dieu en boîte. Deutéronome 29-28, les choses révélées appartiennent aux hommes, les choses cachées appartiennent à Dieu. Dieu nous a révélé qu'il est souverain. Dieu nous a révélé qu'il nous tient responsables de nos choix. J'arrive pas dans mon petite tête, surtout après avoir frappé la poubelle, j'avais mal à la tête. J'arrive pas à réconcilier ces deux choses. Dieu m'a pas demandé de les réconcilier intellectuellement, complètement. Simplement, il m'annonce une chose comme étant vraie et une autre comme étant vraie. Tout ce qu'il me demande, c'est de recevoir ces deux choses comme des vérités. Savoir que c'est lui qui est souverain. S'il m'utilise, c'est pas parce que j'ai des ressources personnelles merveilleuses, c'est parce qu'il m'a donné des choses à faire, il m'a équipé pour les faire. Et c'est un privilège, c'est pas un sujet de gloire. Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Leur problème, c'est que ce devoir, ils l'ont transformé en signe d'orgueil. Cette responsabilité que Dieu leur donnait, ils l'ont transformée en raison de se croire plus fort, meilleur que les autres. Ils en ont fait un sujet de gloire nationale. Et Dieu a dû, à travers l'histoire de l'Ancien Testament, les juger, soulever des gens qui revenaient à leur sens et retomber. Et toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ce n'est pas une vieille histoire dont on peut se moquer, c'est une histoire qui s'est passée, que Dieu veut que nous comprenions pour en tirer des leçons pour aujourd'hui. Le libre arbitre, c'est l'autre grand terme, qui fait que je peux dire à l'autre que je l'aime ou que je ne l'aime pas, sans qu'il me menace. Si on pense que c'est d'agir indépendamment de toutes les circonstances extérieures, on peut douter qu'il existe vraiment, parce que c'est vrai, on est influencé par nos circonstances. Par contre, si le libre arbitre, c'est la capacité de choisir et d'agir sur la base de nos convictions, de nos motivations, dans l'espoir d'accomplir les buts de Dieu ou nos propres buts, alors là, le libre arbitre, il existe. Nous avons, le choix nous appartient. Le Seigneur est souverain, mais il tient ses instruments comme moralement responsable. Et on le voit avec l'exemple de la Syrie. Il a pris des gens qui avaient des mauvaises dispositions pour juger son peuple, accomplir ses desseins, mais ce n'est pas pour autant qu'il va féliciter la Syrie. Et pour terminer, j'aimerais raconter cette histoire de ce pasteur qui avait quelqu'un qu'il connaissait dans son quartier qui venait toujours l'embêter et lui dire « Je ne crois pas à vos histoires. » Et une fois, il avait pris un petit oiseau dans ses mains, cet homme, et il était venu voir le pasteur en lui disant « J'ai un petit oiseau dans mes mains. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort ?» Le pasteur savait qu'il voulait le coincer. Il a dit, il s'est dit lui-même, si je lui dis que l'oiseau est vivant, il va lui tordre le cou derrière son dos et il me dira « j'ai tort ». Si je lui dis qu'il est mort, il va le laisser vivant, il va me dire « tu avais tort encore ». Tu vois, tu dis que des bêtises, pasteur. Et là, le pasteur, inspiré par l'esprit, lui a dit une réponse implacable, il a dit « le choix est entre tes mains ». Dieu nous laisse libre de nos choix, mais le choix est entre nos mains. De le suivre chaque jour, de nous repentir lorsque nous péchons, ou de le laisser avoir à recourir à une discipline plus sévère. Dieu nous discipline parce qu'il nous aime, on le voit dans cet exemple, et il y a toujours sa grâce, ce reste qui subsiste.